Chapitre 4. Souper et sérénade à quatre. Il est à peu près inutile de dire que le seul jour d'intervalle entre la soirée où le repas fut convenu et le festival nocturne fut trop court pour les apprêts de la cérémonie. Zeppelin, jaloux de Middle Temple, qui raconte qu'Olivier Goldsmith avait donné dans sa chambre une soirée musicale qui dura jusqu'au moment où les voisins se plaignirent, peut désormais mêler dans son histoire monotone un événement du même genre. Plus de jalousie. Le substitut de Baza ne trouva pas que sa place fût une sinécure durant cette journée, tant il eut d'arrangements et de changements à faire dans cet endroit déjà bien remis en ordre, et les forces culinaires de Furnival purent croire que Zeppelin se préparait à supporter un siège et s'approvisionnait en conséquence. Incroyable était la variété de mets qu'on commanda pour ce souper. Zeppel lui-même aurait pu en être étonné, et P.J.T. 1747 le fut certainement en voyant arriver entre deux porteurs un sofa d'une construction particulière et bizarre, longtemps examiné avec intérêt chez le marchand par M. Grudius à cause de sa bizarrerie, sans qu'il se fût jamais décidé à l'acheter. Mais la langue anglaise n'a pas d'expressions assez fortes pour exprimer le scandale qui s'éveilla dans Staple et P.J.T. quand une légère charrette déposa un piano droit devant la porte. Les porteurs parvinrent à le monter avec une adresse qui aurait dû les désigner comme pilotes pour les navigations difficiles. Le piano lui-même, par l'étendue de ses pérégrinations et les difficultés qu'il rencontra pour se faire introduire dans l'appartement du vieil avocat, aurait mérité une place parmi les voyageurs éminents de la Société géographique. Le marchand de bougies fut soumis à des réquisitions sévères pour plusieurs livres de bougies, heureusement en cire, car si elles avaient été en suif et qu'on les eût toutes vues prendre le même chemin, tout le quartier marchand d'Holborn aurait été persuadé qu'il se donnait un banquet de Russes à Zeppelin, car chacun sait que ces peuples du Nord aiment les chandelles. Le quincailler, obligé de fournir des appliques et des candélabres pour placer tout ce luminaire, en dégarnit ses rayons et dut se mettre en communication immédiate avec Birmingham pour demander un nouvel envoi. On se demandera toujours si M. Grudges, en faisant cette provision extraordinaire de bougies, suivait simplement les traditions des vieilles réunions royales dans les palais aujourd'hui en ruine. On y prétendait que les bougies de cire donnaient seules une clarté digne de briller sur les joues de la beauté. Peut-être M. Grudges n'avait-il d'autre intention que d'exprimer la joie générale de Zeppelin par une illumination en l'honneur de ses convives. Dans tous les cas, il accomplissait ce qu'il croyait être le plus haut devoir d'un loyal chevalier, mais pas le seul devoir vraiment. L'avocat avait fait d'autres sacrifices à l'autel de la beauté. Il était probable que Bouton de Rose, lorsqu'elle allait voir son tuteur en grande tenue, allait dire, en se servant de ses formules particulières, « Oh ! Où donc, Monsieur Grudges, avez-vous trouvé cet habit dont le col vous scie les oreilles et dont les pans sont aussi étroits que les feuillets d'un essuie-plume ? J'ai vu des gravures représentant les beaux qui florissaient au temps du méchant, délicieux et horrible prince régent. Vous le ressemblez. Comment se fait-il que votre gilet soit blanchi depuis si longtemps qu'il en est devenu jaune ? Ou bien était-il primitivement jaune et s'est-il fané ? Et pourquoi, oh pourquoi, n'a-t-on pas fait vos culottes un tant soit peu plus longues, de façon à ce que vous montriez un peu moins vos chers vieux bas ? Le bon vieil avocat était allé jusqu'à se procurer de l'huile de macassar parfumée pour ses cheveux hérissés, ce qui les avait rendus encore plus rebelles que de coutume. Cela fait, il se félicitait d'une toilette si extraordinaire qu'il avait rendu un peu moins anguleux et, par conséquent, allait le rendre moins désagréable pour les yeux des deux charmantes filles qui allaient passer sous l'écusson de P.J.T. Tout anguleux qu'était M. Grudges, il y avait de certains détails de bien-être qui ne lui étaient nullement inconnus, comme, par exemple, les avantages d'une bonne cave. Ces vins de choix étaient des prisonniers enfermés dans quelques réduits obscurs des étages inférieurs et relaxés seulement au moment de terminer leur existence. Rien que du vieux. certaines maximes, dont il avait dû se pénétrer en dehors des maximes légales, avaient également porté Grugeuse à avoir sa cave à lui et de n'envoyer à celle du marchand que pour se procurer du vinaigre. Une autre de ses maximes était de regarder comme une folie de recevoir des convives avant que le repas fût prêt. Il voulait ainsi les dispenser et se dispenser lui-même de cette demi-heure assommante qui précède le moment de prendre ses places à table. En conséquence, le souper arriva de chez Furnival presque au moment où les convives entraient. Il était apporté par le même garçon volant qui avait servi le soir où le pauvre Edwin Drood était arrivé sans être attendu. Ce garçon était aidé par deux subordonnés, presque aussi actifs que lui, et ne se trouvait plus tyrannisé par l'immuable du premier souper, lequel, paraît-il, avait été tiré de son immobilité et emmené par l'inexorable policeman des districts plutoniens, après certains repas trop copieux, suivis d'une apoplexie. Les vins avaient l'éclat du rubis ou de l'opale ou la couleur de la paille fraîchement moissonnée. Ils étaient confiés aux soins du substitut qui paraissait enchanté de sa tâche. M. Grugeuse, d'ailleurs, avait tout surveillé en frottant souvent ses longues mains l'une contre l'autre et en contournant son visage anguleux avec une expression particulière d'anxiété qui passa par degrés à la satisfaction complète. Il avait ouvert et fermé le piano une douzaine de fois au moins, et poussetant les touches avec son mouchoir et les étudiant dans leur stupide silence, comme s'il espérait que ses yeux, remplaçant ses oreilles, allaient saisir quelque chose de leur puissance musicale. Tout était prêt et le morose extérieur de l'amphitryon, subitement régayé, attendait l'arrivée de la jeunesse et de la beauté. Les vieux livres de droit avaient l'air de sourire. Bien des gens ne se seraient pas aperçus de la présence de ces antiques serviteurs qui gardaient un majestueux silence. Ils n'avaient pas été oubliés dans la fête, ayant été époussetés et bien rangés. Henricus de Bracton était là, à la place d'honneur, dans son vêtement in quarto en parchemin blanc. « De legibus et consuetudinibus anglie libri ». Il s'agissait des coutumes du temps de Henri III, et le titre prouvait que nos ancêtres jouissaient, comme nous, des bénédictions du latin et de la loi et de toute la science chicanière, mère des procès. Belleoui se trouvait près d'Henricus, relié en vieux veau, in quarto, surchargé de lourdes dorures, opposant à l'expérience de Lincoln Inns les cas conservés par un membre de ce temple légal. Ce trésor daté du roi Richard II. Après Belleoui, John Fortescue, tout bouffi de latin sonore, De laudibus legum anglie, Fortescue défit la traduction et regardait d'un air de mépris certains essais en ce genre déposés à ses côtés. Il y avait là aussi des monuments plus orgueilleux et plus riches encore d'antiquité légale, l'éclectique Cumin, par exemple, tout rempli des 12 tables de Justinien et des fragments d'Ulpien. On y voyait aussi la forme massive du livre du jugement, le plus intéressant des mémoires anglais, d'une valeur sans prise aujourd'hui. Il raconte combien de bonnes acres de terre étaient passées entre les mains des compagnons du duc Guillaume. Puis venait l'indispensable Kelham, servant de pont sur le gouffre insondable qui sépara bientôt ce même duc Guillaume et ceux qui étaient venus conquérir. Puis le maigre et pâle, mais attrayant, savant et brave légiste, le juge Jenkins, prisonnier de Newgate, présentant son livre de divers statuts concernant la liberté des sujets, desquels il semble surnaturel que le grave et savant juge ait jamais daigné s'occuper. Plus loin, des rangées compactes, le vulgum pecus, la foule des compagnons ou imitateurs de ces hommes puissants dans la loi. Tout ce fatras formait le trésor du vieux Grugeuse, qui ne savait pas plus être moderne dans sa bibliothèque qu'en son habit. Pédante société que celle-ci, surtout pour aider à la réception des 3 ou 4 jeunes gens qui ne devaient guère être plus disposés à apprécier tous ces savants qu'ils n'auraient fait de fables hébraïques ou d'un obélisque égyptien. Mais il charmait Hiram Grugeuse, Esquire Steppelin. Quand il avait commencé de les étudier, on lui voyait moins de cheveux gris sur la tête, il avait les articulations moins raides. Ses livres lui avaient tenu fidèle compagnie depuis 20 ans. Qui peut s'étonner de l'orgueil avec lequel il les tenait rangés au-dessus du sofa bizarre et du merveilleux piano? Il donnait, suivant lui, à la chambre un aspect tout à fait digne. L'appartement de M. Grewgious, ainsi disposé, était peut-être un cadre un peu grand et un peu recherché pour un petit tableau sans conséquence. Au moment où les convives arrivaient, à ce moment heureux, ils parurent à peine mériter tant de préparatifs. Ils n'étaient que trois, un groupe charmant par le contraste qu'ils formaient entre eux. M. Tartare, en costume presque marin, tranchait vigoureusement sur l'ensemble. Héléna, avec sa beauté sombre et splendide, faisait ressortir la charmante fraîcheur anglaise de boutons de rose. Ils furent reçus par M. Grewgious sur le palier de son appartement, avec une vivacité qui prouvait combien il avait dû être sur le qui-vive, et aussi avec un empressement cérémonieux un peu passé de mode. Mais quel désappointement, Neville n'était pas là. « Sa santé et l'état de son esprit, dit Héléna à son hôte, ne lui ont pas permis d'accepter votre invitation, mais il n'en est pas moins reconnaissant de votre attention, Monsieur Grewgious. » Celui-ci, qui ne connaissait aucune raison au jeune homme d'être précisément indisposé ce jour-là, faillit déranger tout le programme. Il parlait de monter chez le jeune homme, accompagné par le substitut, et de le forcer à descendre, ni plus ni moins qu'un gendarme forçant un témoin réfractaire à se présenter devant la cour. Mais il fut retenu par Héléna, qui l'arrêta en lui affirmant que son frère souffrait d'un violent mal de tête et venait de se mettre au lit. « Le pauvre garçon, est-il possible ? » s'écria l'avocat. « Hum ! Il ne serait pas bon de le faire descendre, n'est-ce pas ? Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui envoyer une partie du souper, une volaille rôtie, par exemple, et une bouteille de vin. C'est trop peu de choses pour augmenter sa migraine, et puis nous essaierons de remplacer notre cinquième à table en exprimant des regrets sur son absence. » Il n'est pas besoin de dire qu'en cette occasion, Héléna Landless, pour employer une expression douce à l'égard d'une dame, avait altéré les faits de propos délibérés. Neville Landless s'était couché. Il pouvait avoir mal à la tête, mais sa sœur fidèle et soigneuse savait que le pire mal était au cœur. Elle savait que Neville était assis en ce moment dans sa chambre sombre, les yeux fixes dans l'obscurité ou regardant dehors la nuit sans étoiles, aussi incapable d'arracher ses pensées à la réunion de l'étage inférieur que de trouver le courage de s'y joindre et de jouir ainsi d'une heure de paradis au risque d'endurer ensuite une semaine de purgatoire. Non, le jeune homme averti et fortifié à la fois par sa conversation avec sa sœur, luttait pour se forcer au renoncement. Il luttait avec plus de courage que n'en aurait fait supposer sa faiblesse naturelle, mais dans cette lutte, il avait besoin de tous les secours. Il se méfiait de lui-même et de la tentation. Rosa était perdue pour lui, il le savait, et tâchait d'apprendre cette difficile leçon, se soumettre. Mais il ne pouvait y arriver en la rencontrant souvent, il ne pouvait se permettre de la voir, si ce n'est à de rares intervalles et comme par accident, s'asseoir à table près d'elle pendant toute une soirée aurait été une espèce de suicide mental. La voir avec l'homme qui l'avait charmé aurait été de la folie. Le frère et la sœur avaient causé naturellement de tout cela. Héléna avait engagé faiblement Neville à affronter sa mauvaise fortune et à se montrer fort. Mais elle savait, tout en combattant sa résistance, qu'il avait raison de résister, qu'il ne pourrait en résulter aucun bien pour lui, que le mal, plutôt, pourrait en advenir. Elle l'avait donc laissé seul, après l'avoir embrassé avec tendresse, remerciant tout bas le ciel que son amour, à elle, ne fit souffrir qu'elle-même. Il n'y avait pas du moins un homme usant sa vie pour l'amour d'elle ou luttant pour s'assurer ce repos négatif qu'on trouve dans l'indifférence et dans l'oubli. Voici ce qu'elle pensait et se disait dans la générosité de son brave cœur, et elle ne se doutait guère qu'à cette heure, sous la lueur voilée de sa lampe ou découvrant son front pour l'exposer aux influences célestes, sous le regard des étoiles et contemplant la vieille cathédrale, un des hommes les plus nobles et les plus courageux qui fussent au monde passait par cette épreuve pour l'amour d'elle-même. mais le souper. Le souper que M. Grewgious présidait avec une dignité suave, bien différente de ses facultés anguleuses, le souper aux détails appétissants, auquel la jolie Rosa applaudit des deux mains, payant ainsi mille fois l'amphitryon de la dépense et de l'anxiété qu'il lui avait coûté.
Oh, où donc, mon cher vieux tuteur, avez-vous trouvé tant de choses pour me faire plaisir?
Peut-être ne pouvons-nous pas faire de plus grand éloge de l'hôte en cette occasion qu'en disant qu'il se retint, malgré d'innombrables tentations, d'offrir à Rosa, placée à sa droite, certains morceaux friands qui auraient prouvé trop évidemment qu'elle était sa favorite. Cependant, son opinion personnelle était que Rosa ne devait clore ses lèvres délicates sur rien de plus ordinaire que l'ambroisie céleste. Mais il ne manifesta point cette opinion par d'injustes préférences. En sorte qu'Héléna ne fut pas négligée, comme cela aurait pu arriver, et que M. Tartare ne se fit pas priver de cette occasion de faire sa cour à sa divinité. M. Grewgious permit qu'il servît souvent Rosa lui-même. Mais le moment arriva, trop tôt, c'est un moment inévitable, où la nature se refuse à renouveler l'appétit. Le merveilleux souper de Furnival était croqué et fini, personne ne voulait plus rien. Alors Héléna, remarquant les derniers efforts de leur hôte pour stimuler ses convives par sa propre activité, lui demanda gaiement, d'un air de doute, s'il n'allait pas s'exposer à faire plus ample connaissance avec les redoutables bouteilles du docteur Chippercoin, et Rosa s'écria
« Oh, je vous en prie, ne me demandez pas de manger davantage, à moins que vous ne vouliez me tuer tout de suite. »
Ce que personne ne désirait faire. M. Tartare suggéra de sa voix fraîche que quatre convives pareils dans l'équipage d'un bord mettraient tout le monde à la ration avant que le voyage fût à moitié fait et qu'ils arriveraient infailliblement à faire manger le mousse. À ces mots, les couteaux et les fourchettes retombèrent d'un mouvement unanime dans les assiettes et le mémorable festin ne fut plus qu'une chose du passé en ce qui concernait du moins les solides. Mais il n'en fut pas de même à l'égard de ces prisonniers vineux de l'étage inférieur qu'on n'avait rendus libres que pour les ensevelir plus sûrement dans une autre prison. Leur absorption eut pour résultat d'effacer presque la dernière ride anguleuse de M. Grewgious et de faire que M. Tartare partit par un vent frais, gouverna au large et se lança dans une suite de narrations aventureuses, pendant la durée desquelles il ne parut pas s'élever au-dessus du grade de second loft et ne fut même souvent qu'un servant. Mais il réussit à faire briller encore davantage les yeux déjà étincelants de Rosa. C'est à ce moment que le vieil avocat aperçut vaguement la raison pour laquelle, dans les desseins insondables de la Providence, il avait été conduit à réunir ces jeunes gens dans les vieilles chambres sombres de Staple Inn. La scène d'Othello fut rejouée, moins exactement que le soir de l'enlèvement, mais c'en eût été assez pour ouvrir les yeux au vieux et grave sénateur de Venise s'il avait regardé autour de lui et pour édifier d'autres regards que les siens, tout accoutumés qu'ils étaient à lire les physionomies de la barre ou du banc des témoins. Ce fut un coup violent qui arracha presque un gémissement à l'avocat et lui fit positivement répandre un peu de vin sur la nappe. Précieux rubis qu'il aurait mieux fait d'avaler. M. Grewgious vit et comprit tout d'un coup ce qu'un homme moins simple d'esprit aurait pu voir depuis une heure, la tension absorbante avec laquelle la jeune fille dévorait des yeux le narrateur. Rosa montrait de temps en temps, par un frisson rapide ou par une exclamation enfantine, la terreur qu'elle éprouvait pour lui, même quand il ne parlait que des périls passés. Il vit l'air simple avec lequel, franche, innocente et ne se connaissant aucune raison de feindre, elle regardait le marin comme le dominateur de maître et seigneur. « Oh, Desdémone !» L'homme anguleux ne gémit pas, nous l'avons déjà dit. Il ne renversa pas son vin une seconde fois, mais le porta à ses lèvres, d'une main aussi ferme que le brave cœur qu'elle servait. Et cependant, en ce moment, il sentit mieux que jamais qu'il y a une terrible différence entre les sentiments du criminel condamné tant que le jour fatal n'est pas encore arrivé
et ce qu'il éprouve dans la matinée décisive quand le geôlier entre dans sa cellule avec plus de respect compatissant qu'en l'ordinaire, lui enlève ses fers et introduit le prêtre. C'est qu'alors la dernière heure est réellement venue, il faut se préparer au grand voyage. M. Grigeuse avait pensé avoir un jour Bouton de Rose, courtisé, fiancé, marié, mais c'était l'inconnu. Il voyait l'homme maintenant qui devait la posséder, et il pouvait presque indiquer l'heure de sa victoire, cela c'était certain. Une semaine, un mois, 6 mois, qu'importe, puisque ce devait être lui. Et Rosa disparaîtrait comme avait disparu sa mère, et il se retrouverait seul, seul, comme un vieillard fatigué, sans femme et sans enfant, et isolé sur la terre. Quelqu'un des trois convives vit-il ce qui devait être écrit sur le visage du vieil avocat, car Hiram Grigeuse n'était qu'un mortel après tout. Non, aucun du moins n'y peut rien lire et comprendre clairement. Peut-être les yeux vifs d'Helena Landless aperçurent-ils comme l'ombre d'une souffrance, et c'est pour cela qu'elle railla si gaiement l'avocat au sujet des dangereux compagnons de sa bibliothèque, bien plus terribles que les animaux sauvages des bouteilles du docteur. Que serait-il arrivé s'ils étaient échappés tout à coup, accablant les joyeux convives sous l'assaut impitoyable de la loi, les laissant dans le doute civilement s'ils possédaient toutes ces choses ou rien, et criminellement, s'ils avaient commis tous les crimes ou s'ils les avaient souffert. Mais si Helena surprit un indice de nature à éveiller ses soupçons, ce doute n'arriva jamais à une certitude. Elle aurait d'ailleurs toujours été la dernière à parler de ceux qui ne pouvaient profiter à personne et risquer, au contraire, de causer du chagrin à ceux qu'elle aimait le mieux. Quant aux deux autres soupeurs, que pouvaient-ils voir? Ils ne regardaient rien, si ce n'est eux-mêmes. Au bout d'une demi-heure, tous les visages avaient repris un air heureux et les quatre amis se trouvaient réunis autour d'une table de whist. Helena ne put s'empêcher seulement de remarquer que M. Grigeuse ne la soutenait que faiblement et semblait jouer plutôt le jeu de ses adversaires. M. Grigeuse était calme quand il exhiba le merveilleux sofa, lequel étant couvert de deux façons, en drap par un bout et en cuir par l'autre, permettait, comme il le disait, d'offrir des places de première et seconde classe. Il y plaça la petite reine de la fête. Ce fut une place de première classe qu'il lui donna. M. Grigeuse était calme quand le piano trouva son emploi et que Rosa, la pensionnaire, se mit à jouer une douzaine de riens charmants qui durent faire tressaillir tous les vieux dignitaires de la loi dans leurs rayons. Il voyait ainsi introniser non seulement la musique, mais les frivolités mondaines dans les domaines de la loi. M. Grigeuse était calme quand Helena Landless, doutant modestement de ses talents tard venus, mais douée d'une belle voix et d'une excellente méthode, consentit à chanter, accompagnée par Rosa, la dernière rose d'été. Elle mit assez de charme pour amener les larmes dans les yeux de ses auditeurs. Sa voix était pleine de la tristesse des neiges tombant sur la terre encore ensoleillée. Son chant rendit les angoisses des cœurs brisés par l'oubli et des existences solitaires. Puis elle chanta une chanson fantastique de Ceylan, assez monotone mais remplie d'un charme pénétrant, une incantation de la langue musicale pali. Les notes basses du piano servaient à remplacer les sons du tambour de calebasse dont se servent les adorateurs de Bouddha. Ce chant glaçait le sang dans les veines de la sensible Rosa, devant laquelle s'ouvraient des mondes inconnus. Le marin écoutait et se retrouvait par la pensée, errant au milieu des récifs de coraux ou sous les bosquets d'orangers. M. Grigeuse se rappelait la visite au docteur de Gerald Seat, pensait à la raison qui y avait conduit la jeune fille et réfléchissait aux étranges combinaisons morales et physiques qui pouvaient faire de cette splendide créature une femme qu'on dût aimer jusqu'à la mort ou redouter au même degré. Au bout d'un moment, M. Tartare dériva vers la chaise qu'Helena venait de quitter et sa voix de baryton riche, sonore, bien que peu cultivée, s'éleva, fraîche comme lui-même et éveilla la même sensation de virilité que toute sa personne.
mais il ne fit aucune allusion, ce qui est bizarre, aux remparts de bois de l'Angleterre qu'on pouvait s'attendre à voir surgir à tout instant dans sa chanson. Il ne répéta pas ce consolant lieu commun que jamais les Bretons ne seront esclaves. Il ne célébra pas les yeux noirs de Suzanne et les chagrins causés à William par un certain manque de respect traditionnel envers son officier, pas plus qu'il ne vanta les talents nautiques de Thomas Bouline, capitaine de grand-mât à bord du vaisseau de Sa Majesté, le Tonnerre. Il avait horreur des banalités, M. Tartare. Il chanta des chansons de marins, toutes nouvelles pour ses auditeurs, et il les chanta rondement, avec sentiment, en s'accompagnant lui-même, obéissant à l'inspiration plutôt que suivant de la musique écrite. Ses chants, tout éprégnés de sel marin et de l'écume des vagues, avaient sans doute abrégé plus d'une heure de veille sur le pont ou dans la chambre des officiers, en ces mers lointaines et sur ces côtes solitaires qu'il venait de décrire. Les brises des tropiques soufflaient dans ses vers, mêlées au rugissement de la tempête, aux cris d'agonie des hommes en péril et au tonnerre des grands canons luttant pour l'Angleterre au-dessus de l'abîme. Son talent était simple mais saisissant et ses auditeurs lui rendaient hommage. Les yeux bruns d'Héléna, qui écoutaient attentivement, devenaient tour à tour tristes ou fiers. La petite Rosa joignait les mains et dévorait des yeux son nouveau maître avec plus d'ardeur encore que pendant le dîner, et le vieil avocat, assis aux secondes classes et penché en avant, avait d'abord tendu le cou comme pour se rapprocher du chanteur, puis était retombé en arrière sur son siège, appuyant la tête sur une de ses mains qui, peu à peu, couvrit son front et ses yeux. Tout à coup, la riche voix du baryton entonna l'air et les paroles de cette plaintive mélodie dont nos mères ne nous ont laissé que le souvenir, puisque leur fille ne la chante plus, Alice Gray. La longue main de M. Grudieuse était tout entière sur son visage. Le chanteur dit les deux premières strophes et l'on n'entendit plus dans la chambre d'autre respiration que la sienne. Jeunes et vieux étaient séduits. Puis arriva le dénouement, mêlant si habilement un amour sans espoir et une vie à son déclin. « Je me suis fané au soleil d'été, j'ai tremblé au milieu de la tempête. Mon pèlerinage est presque terminé, les vagues de ma vie sont passées. Et quand le tertre vert couvrira ma tombe, puisse la pitié dire doucement « Ah, son cœur fut brisé pour l'amour d'Alice Gray. » Quelle force aveugle poussait le chanteur d'une rime à l'autre de ce chant si triste, qui donnait, sans qu'il s'en doutât, un coup si poignant à l'un de ses auditeurs. Les jeunes filles, heureusement, ne regardaient pas leur hôte, tant elles étaient absorbées par le chanteur. Et pourtant, l'avocat demeurait assis, tenant toujours une main sur ses yeux, l'autre pressée contre son brave vieux cœur, qui souffrait un dur supplice. M. Tartin semblait se complaire dans la richesse de ses notes. « Ne te souviens-tu pas de la douce Alice, Ben Bolt, de la douce Alice dont les cheveux étaient si noirs, qui pleurait de joie en te voyant sourire et tremblait de crainte en te voyant sérieux ? Dans le vieux cimetière de la vallée, Ben Bolt, dans un coin obscur et solitaire ?»«
Dieu me bénisse ! Arrêtez, je vous en prie, M. Tartare ! Si cela ne vous contrarie pas, Dieu me bénisse! Qu'ai-je donc ? »
L'avocat appuyait à présent ses deux mains sur sa poitrine, qui semblait près de se briser. Il venait de parler, mais sur un ton si bas, et ses paroles étaient si faiblement articulées qu'Héléna seule entendit un murmure. Ni Rosa ni M. Tartare ne purent rien distinguer. Aussi les deux derniers vers éclatèrent-ils au milieu d'une mélodie triste et grave. On a placé une pierre de granit gris et Alice dort sous cette pierre. Héléna s'était levée en voyant le geste douloureux de l'avocat. La mélodie cessa. Rosa aussi aperçut M. Grudieuse affaissé sur le sofa. Toutes deux coururent à lui, suivies par le chanteur étonné. M. Grudieuse ne se trouvait pas mal, seulement il étouffait sous les battements précipités de son cœur, en proie à une de ces agitations amoureuses dont peuvent être susceptibles les plus anguleux des hommes. Il s'appuya sur le bras de M. Tartare, se leva au bout d'un instant,
en s'excusant à voix basse de la larme qu'il avait causée, et ne parut plus occupé de la dissiper. Il avait une excuse toute prête, brave chevalier sans éperon, et qui n'était pas plus mauvaise parce qu'elle ne contenait que la moitié de la vérité. Il rejeta tout sur Ben Bolt, rien sur Alice Gray. « Bon Dieu !» dit-il à voix basse encore, mais assez distinctement. « Bon Dieu, voilà qui est bien extraordinaire. Je vous assure que cela ne m'est jamais arrivé, et je prendrai garde que cela ne se représente plus. Il fait peut-être un peu chaud dans la chambre, n'est-ce pas ?» Et cette dernière strophe de la romance, ma chère, ajouta-t-il en se tournant vers Rosa, m'a un peu affectée, je le crains, en me rappelant votre mère.